Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou.
No outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, ó. Ó, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto.
Bom dia, buenas tardes, boa tarde. C'était notre indicatif Samba do Ernesto, et c'est justement Ernesto qui est à la technique avec moi, le fondateur de notre émission Que Viva la Musica, dédiée aux musiques latino-américaines, les musiques de l'Amérique, des Caraïbes. Et aujourd'hui, on parlera de certains échanges. Ces derniers temps, il y a eu deux émissions successives sur les échanges entre le Brésil et les pays hispanophones, et ça allait de les échanges entre samba, bolero, samba, salsa, et le tango, et la milonga qui venaient se mélanger à tout ça. Et aujourd'hui, d'autres types d'échanges qui ont eu aussi leur lot de résultats heureux et de gros malentendus. J'ai titré cette émission en hommage à Sergio Mendes, qui vient de nous quitter, Musica Brasileira et Brazilian Music. Et comment une bonne partie de la musique brésilienne a finalement été répandue dans le monde à travers un filtre nord-américain qui parfois l'a défiguré beaucoup. Donc Sergio Mendes, quelques mots sur lui. Ce personnage extrêmement doué de la musique brésilienne, typiquement carioca, né dans l'île de Niterói, qui fait face à Rio. À l'époque où il est né, en 1941, on y accédait par un bac. C'était encore le cas dans mon enfance. Plus tard, on a construit un grand pont. Donc maintenant, ça fait partie directement de la banlieue de Rio. Et qui est mort à Los Angeles, aux États-Unis, il y a quelques semaines, en septembre 2024. Donc ce trajet dit aussi, d'une certaine manière, quel a été le trajet de sa musique. Sergio Mendes fait partie de ce groupe de brillantissimes jeunes pianistes brésiliens qui apparaissent à la toute fin des années 50 et au début des années 60. J'avais consacré une émission spéciale là-dessus, et une autre à la figure très particulière de Tenório Júnior. Et il est du même âge, il fait partie des mêmes clubs, puisque et il enregistre avec eux, avec les mêmes projets, puisque son premier album date de 1961, ce jeune homme a 20 ans. Il est leader d'un petit groupe qu'il a formé autour de lui, de ses musiciens, qui marient avec bonheur le jazz et la musique brésilienne, mais en inventant ce qu'on appellera après le jazz bossa ou de divers autres termes, mais qui était surtout une façon de faire le jazz maintenant, non plus en copiant les Américains, qu'ils aimaient énormément, mais en se disant comment on peut faire du jazz en étant totalement brésilien. Et on va en avoir un premier exemple ici, sorti de son premier album Danse Moderne de 61, intitulé Tristeza de nos dois, une composition de Durval Ferreira et Bebeto qu'on retrouve dans plein de disques de ces jeunes musiciens. C'était Tristeza de nos dois, une composition de Durval Ferreira et Bebeto. Durval Ferreira a été un extraordinaire guitariste et compositeur dont énormément de morceaux ont été joués dans les 3 ou 4 boîtes de Rio où ce groupe de musiciens jouaient les uns après les autres, échangeaient entre les groupes. Donc quand on arrive à avoir la liste des participants au groupe, on retombe régulièrement sur les mêmes noms, des mêmes batteurs, des mêmes bassistes, trompettistes, trombonistes qui étaient avec eux. Donc ici, Sergio Mendes, qui est pianiste, on l'a entendu, leader, arrangeur du groupe, a 20 ans, et à ce moment-là, il fait cette musique typique du jazz brésilien des années 60, qui va bientôt intéresser des musiciens des États-Unis qui sont en tournée, qui viennent à Rio. Ils s'intéressent, on l'a dit souvent, à la bossa nova. Ils s'intéressent peut-être encore plus, en fait, à ces musiciens qui jouent, par exemple, dans les fameux clubs de la petite impasse du Beco das Garrafas, qui devient presque un lieu de pèlerinage pour les musiciens étrangers en tournée. Qui ne reviennent pas de voir ces gamins qui jouent indubitablement du jazz, mais du jazz qui vient absolument pas des États-Unis. Et assez rapidement, bah alors on a les célèbres enregistrements, j'en reparlerai, de Stan Getz avec Jean Gilberto, mais aussi que le producteur Creed Taylor, qui avait flairé le filon, enregistre la même année avec trois autres guitaristes brésiliens. Et d'autres viennent carrément à Rio pour enregistrer. Et ça va être l'invention du bossa jazz avec ses qualités et ses défauts. Ici, par exemple, Cannonball Adderley qui enregistre à Rio avec 63 et qui prend pour enregistrer avec lui, en fait pour être derrière lui, parce que c'est vraiment lui la vedette, c'est le groupe de Sergio Mendes. Donc on va en entendre un extrait de son album Cannonballs Bossa Nova.
Thank you.
Donc c'était Sergio Mendes et son groupe derrière, je dis bien derrière, Cannonball Adderley et son saxo. D'ailleurs, le titre de l'album, c'est The Cannonballs Bossa Nova. Et tout le disque est à peu près fait de la même manière. C'est-à-dire, d'un bout à l'autre, on entend le saxo de Cannonball Adderley, excellent musicien, certes. Mais les autres sont là uniquement comme accompagnateurs, sauf dans ce morceau que j'ai choisi. Il se trouve que c'est le seul qui est composé par Sergio Mendes dans l'album et où il va laisser une minute de chorus à Sergio Mendes, dont on entend le talent au piano. Il y a eu beaucoup à cette époque, c'est chez des critiques musicaux américains que j'ai trouvé l'information, hein, c'est pas une critique anti-américaine, d'albums très vite enregistrés. Un de ses critiques dit que sur cet album, Adderley est en vacances au Brésil avec quelques talents locaux. L'autre lui dit, elle fait remarquer que la bossa nova n'est pas faite pour, comme ça, enfiler 7 ou 8 tours de solo à la suite, que ça devient vite répétitif et ennuyeux. N'empêche que c'est une des portes d'entrée de la musique brésilienne dans le milieu du jazz américain. Ici, donc, Cannonball Adderley, qui est déjà une vedette confirmée, qui a 13 ans de plus que Sergio Mendes. Donc, est venu le chercher. Sergio Mendes apparaît donc sur le marché américain, disons, comme un bon accompagnateur de vedettes des États-Unis. On va donner un deuxième exemple de ce genre de choses auquel participe Sergio Mendes. Là, c'est en 1964, un album dont il enregistre certaines pièces à Rio et d'autres à New York. On est déjà dans la transition de la vie de Sergio Mendes. Donc cette fois-ci, c'est dans un album de Herbie Mann. Donc là, on entendait toujours le Sergio Mendes et son groupe, toujours dans le rôle de, d'accompagnateur discret derrière la grande vedette nord-américaine. Ici, donc, Herbie Mann, grand flûtiste de jazz, mais qui, en gros, lui aussi, ça me donne un peu l'impression qu'il allait faire son marché chez les musiciens brésiliens. Il prenait leurs morceaux, il les gardait comme accompagnateurs, parce que bon, c'est vraiment eux qui avaient le groove brésilien. Et un peu comme le précédent, un morceau de presque 5 minutes, où pendant 3 minutes et demie, le soliste venu des États-Unis est devant. Et en gros, il laisse un peu plus d'une minute à ses accompagnateurs, le saxophoniste, le pianiste, pour faire un solo, et ensuite on revient et on fait le final. Je serai sans doute excessif dans certains de mes commentaires, mais je vois là une forme quelquefois d'arrogance que je retrouve dans d'autres détails. Alors j'en suis venu même à me demander si ça les arrangeait pas en plus de venir enregistrer avec des musiciens brésiliens qui étaient beaucoup moins chers que les musiciens new-yorkais. Bah, tant mieux, parce que ça a permis de les entendre. Mais d'autres détails montrent un peu le côté supérieur et négligent à l'égard des musiciens brésiliens. Quand on regarde les éditions américaines du disque, on s'aperçoit qu'il y a des fautes d'orthographe sur les titres, je l'ai déjà signalé d'autres fois dans les émissions, que carrément le titre, un morceau très connu déjà à l'époque, Nanan, qui est écrit toujours Nana, et quand on indique l'auteur, eh ben on dit Baden Powell, ce qui n'est pas vrai, parce que Baden Powell était le guitariste et l'auteur, le compositeur était Moacir Santos. Et le comble, c'est une pièce aussi très connue dans le jazz bossa des États-Unis, qui était Influenza do Jazz, qui veut dire l'influence du jazz. C'est écrit Influenza avec un Z, c'est-à-dire c'est comme si le jazz était un rhume ou quelque chose comme ça. Il y a des moments où ça devient un peu n'importe quoi. Mais je ne sais pas si c'est à cause de ces allers-retours, en tout cas. Le fait est que très jeune, Sergio Mendes est souvent en contact avec des musiciens nord-américains, et que il fait des allers-retours, et à force d'allers-retours, il s'installe de manière à peu près définitive aux États-Unis en 1964, où il jouera encore de la musique brésilienne. Alors, il y aura des moments où, effectivement, aux États-Unis, on arrivera à entendre des boîtes de jazz, du jazz brésilien en direct. Il enregistre ce qui est sans doute, là, donne un avis très personnel, mon disque préféré de Sergio Mendes, avec un groupe. Il commence à prendre l'habitude d'appeler ses groupes Brésil, alors par le nom de l'année, 64, 65, 66, ça continuera longtemps. Là, c'est dans le Brésil 65, donc 65, c'est le Sergio Mendes Trio, mais avec deux invités, une jeune chanteuse, qui, elle aussi, alors que Sergio Mendes est déjà un peu plus vieux, a 21 ans, et un saxophoniste américain qui a plus de bouteilles, Bud Shank, mais qui avait été sans doute le premier 10 ans avant à venir au Brésil jouer avec des Brésiliens. Et donc voici cet ensemble qui chante, où Vanda Sá chante Reza do Edu Lobo.
Oui. Sabatana vi Maria, por amor andei tanto chão e mar, Senhor, já nem sei se o amor não é bastante pra vencer. Eu já sei o que eu vou fazer, meu senhor, uma oração. Vou cantar para ver se vai valer. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Oh, meu santo defensor, traga o meu amor. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Se é fraca oração, mil vezes cantarei. Vai ela dai essa batana, ave Maria. Vai ela dai essa batana, ave Maria.
Là, c'était ce que Sergio Mendes et son trio font en 1964. Alors cette fois-ci, il est aux États-Unis, mais il fait venir des musiciens et une chanteuse. Tous sont brésiliens et ils chantent un répertoire totalement brésilien et où il est en train de trouver un son, c'est-à-dire sur cette espèce de tapis de piano, basse, batterie de jazz matinée de bossa, une voix de chanteuse, ici une des meilleures de sa génération et une très très attentive aux finesses de la mélodie, de l'harmonie. La chanteuse Joyce y en parle dans son livre de souvenirs en disant elle était aussi maniaque que moi dans la manière d'étudier un morceau avant de le chanter et qui avait déjà à peine 20 ans, une maturité étonnante dans la voix et dans l'interprétation, sans tomber dans un certain nombre de clichés de la bossa. Et dans cette période, et jusqu'à 65, Sergio Mendes, de temps en temps, retournera à cette veine commerciale où on l'a repéré. C'est souvent d'ailleurs le même producteur qu'on retrouve à la manœuvre. Et là, il fera un disque que je trouve insuffisamment connu par les amateurs de musique brésilienne. Alors, intitulé à l'américaine, The Sound of Ipanema. Pour une fois, il y a en grosses lettres un nom d'un Brésilien et un nom d'un Français, d'un Américain. Donc, le saxophoniste Paul Winter et le compositeur et chanteur Carlos Lira. Et en fait, l'album est entièrement fait de chansons de Carlos Lira. C'est Carlos Lira lui-même qui est à la guitare et au chant. Paul Winter l'accompagne, il fait un peu plus que l'accompagner au saxo. Et il y a le trio de Sergio Mendes au piano, Sébastien Neto à la basse et Milton Banan, un des plus grands batteurs brésiliens de l'époque, à la batterie. Donc on va en écouter un échantillon, mais je vous recommande l'album tout entier.
Il est 4h sur Radio Balear et c'est l'heure de l'agenda sur Cueille à la Musique. Et une agenda que déjà on a bien détaillé, décortiqué lundi dernier avec Mila, la DJ Mamalova. DJ Mamalova est en présence du directeur de la Fiesta du Sud, Olivier Rey. Fiesta du Sud qui va démarrer jeudi prochain et qui va se prolonger jusqu'au dimanche 13 octobre. Avec bien sûr Judy, MC Solar, les icônes poétiques du rap français qui est de retour, Ayo, Jean Couty, etc., etc. Vendredi 11, il y a Flavia Coelho, pour les amoureux de cette chanteuse. Il y a Olivia Ruiz et la chilienne Anna Tijoux, franco-chilienne, del hip-hop, un militant ardent, etc. Et ensuite de suite jusqu'au dimanche il y a une soirée à partir de midi jusqu'à 19h en présence d'Angélique Grigio. C'est la cité de Mino, c'est gratuit complètement, mais il y a aussi samedi Fatoumata Diawara, Makoto San, Kaboché, Scorpio Queen, etc., etc. La Louve, Sulfuro Arabique Techno, ça sera le jeudi aussi. Voilà, la Fiesta du Sud, ça va commencer jeudi prochain, là, cette semaine-ci. En même temps, on est en plein festival de cinéma espagnol, à l'Arplex, à Variété, au Prado. Programmation très, très variée, hommage au trailer, au polar espagnol. Et je voulais aussi vous rappeler aux amoureux de littérature que le samedi 12 octobre, à partir de 19h30, la poétesse brésilienne Anna Rossi sera présente à cette librairie internationale, la rue Vincent Scotto, pour présenter son dernier livre de poèmes, Senda. Anna Rossi, qui a vécu en France, ça sera une rencontre multilingue. Elle parle espagnol, elle parle français, évidemment portugais. On va faire des lectures, il va y avoir un apéritif. On vous attend nombreux. Voilà, c'était juste pour rappeler cette petite rendez-vous sur Marseille aux amis de la culture latino-américaine, brésilienne, colombienne, etc. À toi.
Merci pour ce retour à Marseille, mais d'une Marseille ouverte sur le monde ou même sur les mondes. On en était donc à l'apparition sur la scène mondiale justement de Sergio Mendes 166 et le deuxième extrait que j'en ai fait passer montrait que c'était une musique d'un compositeur américain, Henry Mancini, la chanteuse qui va plusieurs fois faire partie du groupe de Sergio Mendes dans ces années-là, c'est Lenny Hall, elle aussi nord-américaine, épouse de Herbert Pert. Et il y a ces espèces de grandes nappes de sons un peu sirupeux qui font que assez vite, une bonne partie de ce que fera pendant plus de 20 ans Sergio Mendes sera ce qu'on a catalogué comme easy music, musique d'ascenseur, etc. Et on est maintenant très loin de ses origines dans le jazz brésilien. Je vais faire un saut dans le temps parce que je pense que c'est la partie la plus connue de Sergio Mendes et ça m'intéressait de faire entendre ce qu'il a fait avant de devenir mondialement célèbre et des choses aussi qu'il a faites vers la fin de sa carrière puisque au lieu de certains albums où il reprenait à l'appel des tubes nord-américains en les remettant dans la même sauce qu'on a déjà entendu, de temps en temps, il revenait au Brésil un peu pour, à son tour, faire son marché, voir sur place ce qu'il faisait, rencontrer d'autres musiciens. Et il a fait quelques albums où, cette fois-ci, il est un peu dans la position où était Herb Alpert quand lui est arrivé. C'est-à-dire, s'il y a son nom sur l'album, en fait, il y est essentiellement comme producteur et comme arrangeur. Il y a par exemple un album où on voit Sergio Mendes Brasileiro, mais pour l'essentiel, bon, il réarrange d'une manière qu'il imagine compatible avec le marché nord-américain des chanteurs, de bons chanteurs et de bonnes chanteuses brésiliennes. Et on va en prendre un exemple avec ce qu'il fait vers la fin de sa carrière en 2014. Il a un album, Sergio Mendes Magic, où en fait il met en avant des chanteurs et des compositeurs brésiliens et un peu connus à l'international, comme on entend Ana Carolina, on entend Carlinhos Brown, on entend Seu Jorge, on entend Maria Gadu, un qui était déjà connu, Milton Nascimento, mais toujours dans ces espèces de nappes qui rendent toutes les musiques un peu plus sucrées. Et il y a un morceau qui me plaît beaucoup dans cet album, j'avoue que j'ai été surpris, donc quelquefois il faut regarder de plus près le travail de ces gens. Deux ou trois fois dans sa vie, il a repris dans ses albums des pièces d'un musicien qui, même au Brésil, est considéré comme très rare et très sophistiqué, le guitariste Ginga. Et ici donc un très beau poème chanté de Ginga, Atlantica, donc composition de Ginga et paroles de Thiago Amoud, chanté par Ana Carolina. Alors, le verdict, c'est Avenida Atlantica, c'est l'avenue qui est derrière Copacabana.
Ser o mar, tudo na praia vazia, vem devagarinho pra lhe acarinhar. Concha soprando alegria, cavalo marinho, salobro colar, lua na barra do dia. Só pra lhe embalar. Antes da última taça, passo da vigília pra contemplação. Tudo em você me ultrapassa, feito aquela quilha, arrebentação. Acho que a onda lhe abraça e a torre da ilha lhe manda um clarão. Tocam-lhe as águas por graça, a garça é uma filha, o peixe um irmão. Minha vida é devida aos seus olhos, rainha. Pois você, só você, transfigura esse meu litoral. Tudo em você me namora, súbito evapora. Não deixa assinar.
Ça, c'était dans certaines bonnes choses qui, à mon goût, hein, c'est une émission subjective, que Sergio Mendes arrivait à produire vers la fin de sa vie. Je lui sais gré d'avoir fait connaître un peu plus largement qu'au Brésil et chez les amateurs très spécialisés dans la musique du Brésil dans le monde, cette chanson de Ginga. Même si à mon goût, il en met trop partout, eh ben un peu comme les arrangements qu'il avait eus en 65 de la part de Claire Fisher, alors que en général, chez Ging, c'est vraiment le poème et un accompagnement à la guitare très délicat, très épuré, au milieu du silence. Et là, on a des tartines de violon, de synthé, un peu de partout. Je trouve que ça alourdit un peu. Et on ira doucement vers la fin de l'émission en montrant que d'autres musiciens comme lui, venus de ce petit noyau de musiciens de jazz brésilien et en particulier de pianistes des années 60, ont cherché vers la fin des années 60 leur musique pouvait se mélanger à autre chose, et quelquefois de manière un peu surprenante. Donc on va entendre un de ces échantillons. Voilà, d'autres que Sergio Mendes au milieu de ces années 60, venus du jazz brésilien, expérimentaient d'autres arrangements. Cette idée était dans l'air de mettre des espèces de nappes vocales et d'enregistrer en même temps un piano, un orgue, etc. La différence, c'est que Luis S., en faisant ça, reste Luis S., c'est-à-dire que dans son morceau, il y a des choses qui restent étranges aux oreilles d'un grand public, de temps en temps des dissonances, des ruptures de rythme. Bon, Luis S. fera beaucoup d'expérimentations de ce genre, quelquefois des expérimentations aussi bizarroïdes quand il partira au Mexique autour de la vie collective, les substances hallucinogènes ou des choses comme ça. mais ça n'ira jamais jusqu'à la production en série de choses formatées pour la radio et pour que ça marche. Un autre exemple de musiciens de cette même génération qui cherchent autour de ce même son, même s'il n'y restera pas longtemps, qu'on va entendre maintenant.
Spada badawi, 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 spada Spada badawi, spada badaya. Spada badawi, spada badaya. Spada badawi, spada badaya. Spada badaya. Spada badaya.
Donc ça, c'est ce que faisait en 1967 le guitariste, compositeur et arrangeur Mario Castroneves. Et ce qui... Bon, donc c'est Dibencadera, une composition de Danilo Caymmi, qui est lui plutôt un compositeur de la génération post-bossa nova. Et c'est ce qui m'a amusé, c'est la franchise ou la naïveté, comme on voudra, de ce qui était écrit sur la pochette. Donc c'est Mario Castroneves lui-même qui explique, en gros, il dit la recette. L'idée en formant ce quintet était d'obtenir de nouveaux effets de son et de rythme pour la musique brésilienne en conservant cependant sa caractéristique fondamentale de samba. Comme la compagnie RCA était intéressé à lancer quelque chose dans le genre au Brésil et à l'étranger, au point de demander que certains sambas soient en version anglaise, je crois que nous sommes parvenus à atteindre le même objectif. Donc c'est le musicien lui-même qui écrit ça sur la pochette de son disque, quoi. C'est la recette, c'est on fait ça parce que la maison de disques cherche ça en se disant que ça pourrait marcher à l'étranger. Et ben, qui a une carrière presque parallèle à celle de Sergio Mendes, et qui ensuite changera de direction, c'est lui aussi pianiste, compositeur et arrangeur, Eumir Deodato, qui a eu plusieurs groupes dans la première moitié des années 60 au Brésil. Mais je me suis aperçu récemment que s'il continue à faire du jazz brésilien jusqu'aux années 70, il avait déjà avant fait de la musique, de ce qu'on appellera easy music, musique alimentaire, etc., avec un album très étonnant, qui a été republié sous le titre étrange de Lounge 64 en 2002. Mais le titre était, original était en espagnol, donc je suppose que ça a été produit pour une compagnie latino-américaine, Los Danceros en Bolero, qui n'a rien à voir avec le bolero, puisque chaque plage, c'est deux morceaux de musique mis bout à bout et arrangés en une seule pièce. Et ça vient du jazz, ça vient de la variété internationale. Alors celui-là, je l'ai pris uniquement parce que c'est bout à bout, il a arrangé Dans mon île de Henri Salvador et Aïe mourir pour toi de Charles Aznavour, moins connu, mais une chanson qui avait été connue, par, enfin chantée par Aznavour lui-même, par Amalia Rodriguez et par Dalida. Ça peut paraître surprenant d'entendre ça dans une émission consacrée à des aspects parfois inconnus des musiques du Brésil, mais c'est bien Eumir Deodato qui est à la tête de cet album, qui tourne sur un rythme ressemblant vaguement au boléro, avec... une espèce de tournerie un peu mécanique de bongo derrière. Il passe à cette même moulinette des tubes du monde entier. Bon, c'est la musique explicitement commerciale. Ça n'empêche pas Deodato d'avoir continué jusqu'aux années 70 et d'y revenir plusieurs fois dans sa carrière en faisant de la musique brésilienne, quelquefois en la mêlant d'autres touches. Et pendant ce temps-là, il fait une carrière d'arrangeur et de producteur aux États-Unis. Ça sera, c'est peu connu, un des grands arrangeurs et producteurs de la musique funk et disco. Il fera même des arrangements dans les années 90 pour quelqu'un comme Björk. Donc il met vraiment son talent au service de musiques qui n'ont rien à voir avec celles qu'il jouait à l'origine. Et périodiquement, il fera un album. Alors, c'est pas comme Sergio Mendes en mettant en scène la musique des autres. Il refera un album avec d'autres musiciens de jazz brésilien. Donc ici, un échantillon de ce qu'il fait en 73. Ces notes de une espèce de jazz funk que faisait en 73 Eumir Deodato. On va finir cette émission donc sur ce passage des musiques brésiliennes à la Brazilian music, cette espèce de d'internationalisation d'un son qui s'éloignait finalement de ses sources brésiliennes. Mais bon, on aura d'autres rendez-vous sur Radio Galère 88.4 avec ou sans mon ami Ernest qui est aujourd'hui à la technique.
Toujours, toujours un plaisir de partager avec toi. Plus que de la technique, je fais un petit masterclass de musique brésilienne avec toi. À chaque fois, ça fait plaisir. Mais
j'en apprends aussi beaucoup quand je t'entends sur les autres musiques d'Amérique latine. Donc j'ai dit 88.4 ou vous l'avez sur votre ordinateur radiogalère.org ou en DAB. Et puis on en prépare quelques autres tôt ou tard, ça dépendra du temps qu'il faudra pour les préparer. On va parler dans les prochains mois de Joyce, d'Ivan Lins et de quelques autres. À bientôt sur Radio Galère.